C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello! Come here!
Alors je n'ai qu'une chose à dire. Bonjour à toutes et à tous. Bon allez, je vais rajouter que nous sommes le mardi 8 avril 2025. Il est 14h. Passé de quelques secondes et vous êtes bien. Et même très bien sur O2 Radio 91.3. Bienvenue dans Ciné-100, une émission consacrée au cinéma d'ici et d'ailleurs, de maintenant et d'avant. Vaste programme. Et bien pour le mener à bien, ou pas trop mal, hein, notre équipe fidèle s'est mobilisée. On peut donc compter sur notre lyonnaise préférée, Annelise. Bonjour Annelise.
Bonjour Jean-Jacques, vous allez
voilà,
bien?
Vous rappelez mon prénom?
Oui, bah, vous m'appelez la lyonnaise quand même depuis le temps.
C'est votre marque, c'est votre femme.
C'est marrant
oui,
ça.
Voilà. Présent également notre Toulousain. Oula. Par procuration, qui a posé son parachute. Patrick, bonjour Patrick.
Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour Annelise.
Bonjour
oui, j'ai posé mon parachute dans les travées du stadium.
Je vois ça.
Bon, ouais. Alors, dans l'épisode du jour de Ciné-100, le 25e de la saison, nous allons retrouver un homme et une femme qui, à leur manière, ont marqué l'histoire du cinéma. Et la personnalité masculine du jour est Alexandre Trauner.
Alors pourquoi vouloir parler d'Alexandre Trauner?
Oui.
Qui se souvient de lui, de son nom, de son talent?
Ouais.
Bah, plus grand monde, je le crains. Eh bien, nous allons réparer cette injustice ici à Ciné-100. Alexandre Trauner est né le 3 août 1906 à Budapest et est décédé le 5 décembre 1993 à Aumonville-la-Petite dans la Manche. Ça, c'est l'état civil. Il était décorateur de cinéma franco-hongrois et l'un des plus fameux. Après des études de peinture à l'école des Beaux-Arts de Budapest, il émigre en 1929 à Paris où il devient l'assistant du décorateur Lazar Merson sur « À nous la liberté » par exemple de René Clair en 1932 ou « La kermesse héroïque » de Jacques Feller en 1935.
On remarque que dans les œuvres de Trauner, une influence considérable de Merson, notamment dans le caractère très réaliste des décors.
Oui.
Il parvient toutefois à se distinguer de son maître à travers ses collaborations avec des cinéastes tels que Marcel Carné, qui l'intègre dans le monde du cinéma français, dans Drôle de Trame et L'Hôtel du Nord. Il réalise environ 70 décors pour le cinéma, dont beaucoup de décors urbains dans Paris ou ses villes périphériques. Il s'est fait une spécialité de réaliser d'immenses toiles peintes pour rendre le lieu réaliste, comme dans Quai des Brumes.
Et à ce propos, en 86, France 3 réalisait un reportage à l'École des Beaux-Arts de Paris qui lui consacrait une exposition rétrospective. Écoutez Trauner qui commentait les dessins préparatoires des décors réalisés pour quelques films majeurs. Trauner a alors 80 ans.
Combien de décors justement avez-vous réalisé pour le cinéma?
Bon, ça, je ne sais pas exactement, disons 70, 60. Je n'ai jamais compté. J'ai bâti Paris pas mal. C'est l'Hôtel du Nord. C'est un dessin qui était fait pour la construction qu'on faisait dans le studio de Billancourt. Canal Saint-Martin, c'est un peu Venise des pauvres. Il y a des canaux, il y a des bateaux, et quand même, les enfants aimaient beaucoup jouer à côté. Jour se lève, quartier ouvrier, périphérique, où le côté insolite, évidemment, pour moi, évoquait une grande tristesse, conglomérat hétéroclite, suicidaire. Les portes de la nuit, c'est la bonne époque de Carnet-Prévert. C'est Paris au début de la libération, où la famine n'est pas tout à fait disparue, où les gens font la queue pour la nourriture, c'est une période transitoire, et c'est un film important. Quai des Brumes, une rue de Havre, évidemment qui est dans le brouillard, c'est la boutique de Zabel, les rues pavées d'avant-guerre, parce qu'Havre était détruit, et aujourd'hui c'est une ville moderne. J'aimais beaucoup Baltar, qui était magnifique en comparaison de ce qu'on a mis à plat à la place. C'est pas l'époque que je regrette. que je regrette qu'ils l'ont mis quelque chose qui est minable, qui est pauvre.
Voilà qui est dit.
Intéressant.
Un mot sur le métier de chef décorateur, si vous voulez bien. Alors, il conçoit et crée l'espace physique du film. Principal responsable des décors, il prend en charge les aspects esthétiques, techniques, matériels et budgétaires. Il est chargé de recenser les besoins et de chercher les décors et de définir les aménagements nécessaires.
Dans l'interview précédente, Trauner décrivait les décors de Paris qu'il avait bâtis. Un autre observateur de la capitale nous invite à une visite de décors parisiens. Gilbert Lafaye chante « Neige ».
Le jour se lève, la place est vide, le ciel est noir mais tout est blanc. Sur le musée des Invalides et la fontaine des Innocents, il neige. Sur les trottoirs, les caniveaux, les tickets bleus des cinémas, le Normandie, l'Eldorado, les Esquimaux, les papiers gras, il neige. De la terrasse de l'univers au grand hôtel des voyageurs, du Moulin Rouge au Sacré-Cœur, comme dans les bulles d'une boule de verre, il neige. Le temps se fige, plus rien ne bouge, rue d'Aboukir, rue du Ranelagh, sur le pavé des banlieues rouges, les vieux sommiers des terrains vagues, il neige. Sur les péniches au bord de l'eau, les tôles rouillées, les wagons noirs, sur le charbon des entrepôts, le sang gelé des abattoirs, il neige. Comme un prélude, un long silence de Notre-Dame au blanc manteau, sur les buildings de la Défense, les fausses ruines du parc Monceau, il neige. Il neige mais Paris dort encore, de l'étoile au jardin des plantes, dans la galerie des dinosaures, à côté des cristaux qui chantent, il neige. Sur le musée Carnavalet, l'aquarium du Trocadéro, la gare du Nord, le Grand Palais et les deux ours blancs du zoo, il neige. Le jour se lève, la place est vide, le ciel est noir mais tout est blanc, sur le musée des Invalides et la fontaine des Innocents, il neige.
Ce petit tour dans Paris, n'est-ce pas?
Très, très, très sympathique. Très belle chanson.
Alors, Anne-Lise.
Il y a des noms qui résonnent comme des évidences dans l'histoire du cinéma. Et parmi eux, un brille avec une constance rare. L'actrice dont on va parler incarne l'élégance du talent et la force de l'engagement.
Alors, née le 22 juin 1949 dans le New Jersey, Mary Louise Tripp ne se destine pas immédiatement au 7e art. Elle envisage d'abord une carrière de droit, en droit, avant que la scène la rattrape. Formée à la Yale School of Drama, elle y perfectionne un art qui repose autant sur l'intuition que sur le travail rigoureux. Dès ses débuts à Broadway, elle impressionne. Mais c'est le cinéma qui va la révéler au monde entier et l'étendue de son talent.
Dès son apparition dans Julia, puis dans Voyage au bout de l'enfer, Meryl Streep capte l'attention. Son jeu est sobre, précis, profondément incarné. En 1980, elle remporte son premier Oscar pour Kramer contre Kramer,
mérité,
dans le rôle d'une mère en pleine séparation. Deux ans plus tard, elle offre l'une des performances les plus impressionnantes et les plus poignante du grand écran dans Le Choix de Sophie, qui lui vaut un deuxième Oscar.
Tout aussi mérité.
Oh, tout à fait.
Tous, d'ailleurs.
Ce rôle de survivante de l'Holocauste marque les esprits par son intensité et la complexité de son interprétation. Et que dire de la femme à la vie bien rangée qui succombe au charme d'un photographe de passage dans Sur la route de Madison.
Dans l'interview qui vient, Meryl parle de Clint Eastwood avec lequel elle venait de tourner le film.
J'avais de lui l'idée de quelqu'un de très distant, sans concession, inaccessible. Mais l'homme que j'ai rencontré était presque tout le contraire de cela. Il était peut-être distant et inaccessible, mais pour ce film, il avait sans doute décidé de révéler d'autres aspects de sa personnalité.
Et vous aimeriez tourner avec un réalisateur français ?
Si le réalisateur est très enthousiaste, moi, je sais ce que je dois faire. Et puis, je parle français.
Oui, par exemple, vous pouvez dire quelques mots en français.
Pardonnez-moi pour ma pauvre français.
Ce qui rend Meryl Streep unique, c'est sa capacité à embrasser tous les registres, de la romance tragique de Out of Africa à la comédie musicale légère de Mamma Mia, en passant par la satire mordante dans Le Diable s'habille en Prada. Qui aurait cru qu'une actrice aussi fine dans le drame deviendrait à 57 ans une icône pop grâce à Miranda Presley ? Ce personnage de rédactrice tyrannique et aujourd'hui culte, preuve que Meryl sait aussi rire de son époque.
Au fil des années, elle joue Margaret Thatcher dans The Iron Lady, rôle pour lequel elle décroche un troisième Oscar.
Et oui, mérité.
Tout aussi mérité que les deux autres. Mais aussi une mère dévastée dans Doubt, une rockeuse en quête de rédemption dans Ricky and the Flash, ou encore une chef d'orchestre dans Florence Foster Jenkins. Elle se glisse dans chaque rôle avec un naturel confondant, parfois au point de faire oublier l'actrice derrière le personnage.
Alors Anne-Lise, vous parliez, vous évoquiez tout à l'heure Out of Africa.
Oui, tout à fait.
Et bien dans la bande originale du film, on retrouve le magnifique concerto pour clarinette et orchestre Köchel 622 de Mozart.
Mouvement lent.
Oui.
Bien sûr.
Quel sublime.
Ouais, ce n'est qu'un extrait, bien sûr.
Que c'est beau.
Et oui.
Vive Mozart.
Alors.
Alors revenons à Alexandre Trauner. Tiens. Oui. Après avoir travaillé avec Jacques Prévert, Orson Welles, Howard Hawks et d'autres géants de la scénarisation et de la réalisation, Trauner s'installe à Hollywood en 58 et il découvre le cinéma américain. Il reçoit son premier Oscar du meilleur décor en 1960 pour Mérité. La garçonnière de Billy Wilder.
Ce n'est que 16 ans plus tard qu'il sera à nouveau récompensé, cette fois d'un César, pour Monsieur Klein. Ses exploits dans Don Giovanni et Subway lui vaudront également cette même récompense des meilleurs décors.
C'est incroyable, tous ces films
qu'on cite, qu'on les a tous vus. Quoi.
Et qu'en plus, on sent vraiment se rendre compte qu'il était derrière.
Qu'il était derrière.
Ah, C'est pour ça qu'il soit derrière que devant.
C'est pour ça que je voulais en parler de ce chef d'écho qui est absolument hallucinant. En 81, tiens, figurez-vous, en 81, Direction l'Afrique, pour la première collaboration avec Bertrand Tavernier dans Le Coup de Torchon, bien sûr. Oui, parce qu'il a aussi fait les décors du Coup de Torchon. Et puis, Autour de minuit, du même Tavernier, qui lui permet de plonger dans le Paris et le blues des années 50. Alors, en plus des films cités, qui viennent s'ajouter ses travaux sur Le Jour se lève, Les Visiteurs du soir, Les Enfants du paradis, Othello, et même Ciao Pantin, figurez-vous. Oui. Du travail sur les décors, celui qui en parle le mieux, c'est Trauner lui-même. Écoutons-le.
Moi, je considère le réalisme un élément, mais il faut aller plus loin. Le public doit y croire, c'est ce que j'appelle le réaliste. Il doit croire qu'on est dans une rue, on est dans un appartement, on est dans un escalier, il ne faut pas le décevoir. Maintenant, comment est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on triche avec ces choses? Ça, c'est notre métier.
Il y a 100 000 façons de tricher, mais ce n'est pas tricher, c'est donner des illusions. On amène l'imagination des gens qui voient ces choses. Alors ça, c'est réellement le travail d'un décorateur. Le travail d'un décorateur de cinéma, c'est donner l'illusion autour des acteurs.
Je ne connais pas beaucoup de personnes qui voient en noir et blanc. Les gens voient toujours en couleur. Et on a toujours travaillé en couleur, même quand c'était photographié en noir et blanc.
C'est passionnant.
Oui. De l'écouter, c'est étonnant.
Alors, Alexandre Trauner, peintre de cinéma, magicien de la perspective, n'est-ce pas, sublimateur du réel, réinventeur de Paris, s'est éteint tranquillement à l'âge de 87 ans.
Et parler d'Alexandre Trauner, c'est parler de ses métiers du cinéma.
Ah oui, alors là.
De ses métiers de l'ombre, sans lesquels un film ne serait pas tout à fait le même. Tiens, prenez par exemple Dante Ferretti.
Prenons-le.
Qui le connaît?
Non.
Si vous avez vu Les Aventures du Baron de Munchausen, de Terry Gilliam, vous avez vu sa signature.
D'accord.
Et si vous avez vu La Cité des Femmes de Fellini, vous avez aussi accès à sa vision du décor. Et alors, sans décor, un film, c'est plat, c'est sans relief, c'est sans énergie. C'est lui, entre autres, comme au théâtre, qui donne toute la dimension d'une œuvre, qui fait que le comédien s'immerge dans le rôle et que le spectateur est ébloui. Le décorateur est un magicien, il crée de toutes pièces un lieu qui n'existe pas, comme il vient d'être dit. Il crée des perspectives là où tout est linéaire. Bref, c'est l'un de ses métiers indispensables au réalisateur.
Les corps de métier du cinéma, Philippe Catherine les aborde dans sa chanson judicieusement intitulée « Le film ». Mais Catherine parle-t-il d'un film qu'il regarde au cinéma, des films en général, ou bien de la vie elle-même que l'on regarde comme un film? Eh bien, c'est à vous de voir.
Voyons.
Mais qui a fait le casting? Qui donc a fait le tracklisting? Qui du chef opérateur, sans parler du sound designer? C'est le plus beau film du monde, celui que je vois devant moi. Toujours un nouveau casting, toujours un nouveau tracklisting. Pour l'assemblage de couleurs, c'est toujours toi qui es cadreur. Je ne suis qu'un acteur parmi les autres acteurs, ne suis qu'un spectateur parmi les spectateurs. Est-ce le plus beau film du monde, celui que tu vois devant toi? Pourquoi suis-je dans le casting, pourquoi tu es dans le casting? Qui est le storyteller? Sûrement celui qui connaît l'heure. C'est le plus beau film du monde, celui qu'on peut voir devant soi. Je ne suis qu'un acteur parmi les autres acteurs, ne suis souvent figurant parmi les figurants. Je ne suis qu'un acteur parmi les autres acteurs, et plus souvent figurant parmi les figurants.
Revenons à Meryl Streep.
Oui.
Ce qui force le respect, c'est son engagement hors écran. Elle a toujours refusé de se contenter d'être une grande actrice. Elle est aussi une citoyenne éveillée, militante pour les droits des femmes, la diversité, la justice sociale. Elle soutient des ONG, milite pour l'égalité salariale à Hollywood. Elle s'est exprimée avec courage lors des Golden Globes en 2017 contre les violences sexistes et les dérives du pouvoir.
Et alors vous savez qu'elle a versé tout son salaire de The Iron Lady ? Elle l'a versé au Women's History Museum.
D'accord.
Et puis elle a donné tous les vêtements griffés du diable s'habille en Prada à la charité, à part les lunettes de soleil, je crois. Elle a financé également des bourses pour soutenir les scénaristes féminines de plus de 40 ans, souvent mises du côté dans l'industrie. Et sans jamais crier plus fort que les autres, elle fait entendre une voix juste, intelligente, portée par une conscience aiguë de son influence. Elle éprouve que le cinéma peut être un art politique, au sens noble du terme, évidemment.
Et Meryl Streep, c'est une présence, oui, un charisme, mais c'est aussi une voix. Ah. Écoutons-la dans une scène de Out of Africa où elle lit un poème.
The mail has come today and a friend writes this to me. The Maasai have reported to the district commissioner at Ngong that many times at sunrise and sunset they have seen lions on Finchhatton's grave. A lion and a lioness have gone there and stood or lain on the grave for a long time. After you went away, the ground round the grave was leveled out into a sort of terrace. I suppose that the level place makes a good site for the lions. From there they have a view over the plain and the cattle and game on it. Dennis will like that. I must remember to tell him.
Meryl Streep, c'est 13 rôles au théâtre et 44 rôles au cinéma. C'est sur une carrière s'étalant sur 5 décennies. C'est une série de records, record de prix 157, record de nomination 409, 8 Golden Globes et 3 Oscars.
C'est pourtant, beaucoup, hein.
Et oui, c'est énorme.
Pour une seule femme, oui, quand même.
Elle reste d'une humanité rare, presque gênée par les éloges. Ce qui la touche le plus, c'est quand quelqu'un lui dit « Votre film m'a aidé à comprendre quelque chose de moi-même. Bien voici raison. Ce qui la guide. » Faire du cinéma un miroir du monde et une fenêtre sur l'âme humaine.
Elle a toujours voulu apporter sa touche personnelle, même dans des films où elle avait un temps d'écran limité. Par exemple, dans Manhattan de Woody Allen, où ne tentant jamais d'imiter le cinéaste ou de se confondre avec sa muse de l'époque, Diane Keaton, elle brille en subtilité et sait trouver le ton juste entre drame et comédie.
Alors, ajoutons à cela que Meryl est aussi une chanteuse.
Oh, mais
elle l'a prouvé dans le film Mamma Mia, avec notamment Money, Money, Money.
I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay.
Ain't it sad?
And still there never seems to be a single penny left for me. Don't sit down there.
That's too bad.
It's broken. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
If
It's a rich man's world. It's a rich man's world.
A man like that is hard to find, but I can't get him off my mind.
Ain't it sad?
And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me.
That's too bad.
So I must leave. I have to go to Las Vegas.
Assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape.
Avec plaisir, sur 91.3, O2 Radio, bien entendu.
Alors, il est 14h et on va dire 26-27 minutes,
ouais,
à notre horloge.
À
et il est venu l'heure de nous asseoir sur notre canapé.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent,
je
comme
sais
ça,
pas.
Deux, trois fois dans l'année.
Ah bon, au minimum.
C'est dingue.
Hein.
Oui, oui, c'est dingue, et vous l'avez reconnu, notre petite jingle,
ah bon
ciné, téné et canapé. Voilà, c'est les films qui vont passer à la télé cette semaine,
qu'on
à partir
voir,
de ce
éventuellement.
Soir. Bah, éventuellement, ceux qu'on a choisis, en tout cas.
Oui, ceux qu'on a choisis, parce qu'il y en a beaucoup,
pas
quand
beaucoup,
même. Hein.
Non, il n'y a pas énorme.
Non. Non. Alors, ce soir...
Oui. Bah, moi, ce soir, alors, j'ai quelque chose.
Bah, moi aussi.
Allez-y.
Sur TFX, à 21h,
oui.
Un film d'animation de Andrew Adamson et de Vicky Johnson, sorti en 2001, Shrek.
Ah,
l'histoire
oui,
du ternel,
oui.
Du moche qui veut être aimé d'une belle. Vous savez, ça me parle,
ah,
ça.
Ah, bah oui.
Bon, très bien, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on va voir chez vous parce qu'on va tous venir, on vous l'a pas
non,
dit.
Mais chez vous, Jean-Jacques, parce que chez moi, il ne va rien se passer.
Ah bon, c'est très bien. Ben, moi, je vous convie à 19h50 sur Ciné Plus Family à voir un documentaire de Nicolas Henry de 2021 qui s'intitule « Fernandel, Tati, Louis de Funès, Bourville, les rois de la comédie ». Voilà, on a vite
très
compris.
Bien.
Ça parle de Fernandel, l'éternel Camillo, Bourville, le français moyen naïf, Louis de Funès, le nantier, la mauvaise foi légendaire, et Tati avec son personnage de Monsieur Hulot. Ce qui en fait le fond de la comédie française, du cinéma français, n'est-ce pas? Voilà, c'est à 19h50 sur Ciné Plus Family.
Très bien. Et demain, alors, mercredi?
Alors, attendez, demain, on est mercredi.
Ah, demain, on est mercredi.
Ah bah oui, moi j'ai un truc.
Ah bah moi aussi, j'en ai un.
Ah bah allez-y.
Ah bah oui, ça...
Mais moi, c'est tard. Moi, c'est à 22h46 sur 6.
46
6, oui, très
ah,
oui, exactement.
46.
C'est ultra précis.
Alors, qu'est-ce que c'est, le film?
C'est Green Zone.
Ah, Green Zone.
De Paul Greengrass.
Ouais.
Qui en fait suit des soldats pendant l'invasion des États-Unis suite à la guerre du Golfe et l'excuse d'armes de destruction massive.
Mais on va s'amuser.
Parfait. Bon. Alors bah moi, ce sera beaucoup plus tôt dans l'après-midi, c'est à 13h35 sur Arte.
Ah, c'est pour les enfants.
C'est pour les enfants. Ça s'appelle En cas de malheur. C'est un film de Claude Autant-Lara avec Jean Gabin, Brigitte Bardot et Edwige Feuillère. Ça ne rajeunit pas, c'est un film de 58.
D'accord.
Alors, un avocat de renom tombe amoureux de la jeune femme qu'il vient de faire acquitter au péril de son mariage et de son intégrité. Et jusqu'où l'amour peut-il nous conduire ?
Eh bien, moi, je vais vous inviter à 22h25 sur TCM Cinéma à voir Dead Man de Jim Jarmusch, n'est-ce pas, de 95, western de Jim Jarmusch, avec Johnny Depp, Gabriel Byrne, Robert Mitchum, John Hurt, Iggy Pop, n'est-ce pas ? Et surtout, la musique de Neil Young.
Ouais, extraordinaire. Oui, c'est un film merveilleux. Enfin, après, c'est un peu tard pour le voir, parce que c'est très...
Mais vous l'enregistrez.
Bah oui. C'est sur quelle chaîne,
sur TCM Cinéma, 22h25, et on arrive à jeudi.
Jeudi.
Alors, jeudi.
Alors, j'en ai un petit
français. Moi, j'en ai un, mais je pense qu'on a le même.
Aussi. Oui, à Chéri 25.
Oui, 21h05, Étienne Châtillès.
Allez, hop, je vous laisse.
Le bonheur est dans le pré.
Voilà. Et la vedette du film ?
Michel Serrault.
Pas du tout. La vedette du film, pas du tout. La vedette du film, c'est le Gers, voyons.
Ah, oui, bien sûr.
Où le gras est bon à manger, n'est-ce pas ? Voilà.
Bon,
Vendredi,
bah oui.
Moi j'en ai un.
Ah, allez-y. Moi aussi.
Je crois qu'on a le même.
Encore ?
Allez-y, Patrick.
France 5 ?
Oui.
21h05 ?
À peu près.
Claude Berry ?
Tout à fait.
Coluche ?
Tout à fait.
Richard Aconina ? Agnès Soral ?
Bah oui.
L'éternel, le magnifique, le sublime Ciao Pantin.
Ciao Pantin.
Décor 2 ?
Décor d'Alexandre Trauner, dont on a parlé tout à l'heure.
Bravo !
Bravo !
Bon, on avait les trois les mêmes.
Et Coluche est absolument fabuleux dans ce rôle.
Très, très
absolument
profil.
Extraordinaire.
Bon, alors on arrive samedi et dimanche. Moi, j'étais à la télé, j'ai rien à voir.
Eh ben moi aussi.
Eh ben moi, j'en ai.
Ah bah alors allez-y.
Figurez-vous qu'à 20h50 sur Ciné Plus Classique, je m'appelle Patrick. Excusez-moi, vous pouvez m'appeler Jean-Jacques, c'est mon deuxième prénom. J'ai un superbe film qui s'appelle Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder.
Oui, bien sûr.
1950. Hein, oui, Gloria Swanson, William Holden, Eric Rothstein. L'histoire d'un scénariste raté au bord du gouffre qui va raconter la vie d'une ancienne gloire de cinéma muet. Un film entre passion et humour.
Et ça, c'est samedi. Ça.
C'est samedi, oui.
Mais qu'est-ce que vous faites dimanche?
Eh ben, dimanche, j'ai encore un
film.
Dites-le.
Mais
je vais le dire.
Bon.
Sur Ciné Plus Émotion à 20h50.
Oui.
Fences. De Denzel Washington, avec Denzel Washington, ah Viola Davis et Stephen Anderson. Bon, c'est dans les années 50, un Troy Mason, un éboueur, aurait voulu être pro en footballeur professionnel, mais à cette époque, les Noirs n'étaient pas acceptés au championnat. Donc voilà, il aimerait que ses fils aient une vraie vie meilleure, mais l'aîné vit que pour la musique et son cadet, lui, passionné de foot, ne pense qu'à être professionnel.
Très bien.
C'est un film sur l'intégration.
Oui, on a compris, oui.
D'accord, merci. Bah, dites-moi de me taire.
Lundi,
j'en ai un.
Moi aussi, j'en ai un.
Moi aussi.
Et ben voilà. Moi, j'en ai un sur Arte à 21h.
Ah, bah, j'ai de même.
De Stéphane
Frise.
C'est 20h55, moi. 20h55. Oui, 21h, quoi. Les Liaisons Dangereuses.
Bah oui, bien sûr.
Oui.
Encore.
Magnifique. Oh, ouais.
Magnifique film.
Bah oui.
Avec une pléiade d'artistes, un tout jeune. Mince, j'ai perdu son nom.
Oui, moi
je
aussi.
L'ai pas noté.
Ouais, c'est bien, c'est pas bon. Hein.
C'est dommage.
Malkovich.
Alors, il y a John Malkovich,
oui.
Bien sûr.
Il y a Glenn Close, il y a Michel Pfeiffer, il y a Uma Thurman.
Et,
oui.
et le petit jeune.
Et le petit jeune, c'est Johnny Depp.
Non.
Patrick Swayze.
Bon, on va chercher.
Celui qui joue dans Matrix. Oh, quand même.
Eh ben,
vous avez 5 minutes pour
on
chercher.
On a 5 minutes pour le trouver.
En attendant, vous allez pouvoir aller voir à 20h50 sur Ciné Plus Classique un des chefs-d'œuvre d'Antonioni, n'est-ce pas ? L'Aventura. Avec Léa Massari et Monica Vitti, voilà l'histoire de la fille d'un riche industriel romain qui partit en croisière, disparaît lors d'une escale, on la retrouve plus, ce qui rapproche son fiancé et sa meilleure amie. Un des chefs-d'œuvre de Michelangelo Antonioni. Et il est suivi sur la même chaîne à 23h05 par un autre film d'Antonioni, L'Éclipse. Voilà, c'est soir bien. Antonioni, si vous voulez, sur Ciné Plus Classique.
Et
c'était Keanu Reeves qui jouait
Reeves,
dans...
le petit jeune dans Les Liaisons Dangereuses.
Absolument. Bon,
très
voilà.
Bien. Alors,
voilà.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Patrick ?
Moi, je voulais rien vous dire.
Si,
moi,
si,
je sais pas si vous êtes comme moi, mais
si.
J'ai entendu frapper à la porte.
Ah, moi, j'ai rien entendu. Et alors ?
C'est qui ça ?
Eh oui.
Ça, c'est quoi ça ?
Eh bien, je crois que c'est la personne qui vient d'entrer dans le studio. Eh bien, c'est Mélodie ! Bonjour Mélodie, comment allez-vous ?
Bonjour Mélodie.
Patrick. Bonjour Mélodie. Et bonjour Jean-Jacques et bonjour Anne-Lise.
Voilà.
Mais écoutez, ça va tout
alors,
ça va très
de
bien.
Quoi est-ce que vous allez nous parler ?
Il y a un cinéma dont on n'a pas encore parlé tous ensemble et c'est celui du cinéma d'animation.
Ah oui.
Ah oui ? Et oui. Et du coup, aujourd'hui, je viens vous parler de Hayao Miyazaki.
Ah,
son nom, le maître du cinéma d'animation japonais.
Là, je sors, je n'y connais rien.
Vous allez faire plaisir à quelqu'un dans le studio, Mélodie.
Ah, c'est vrai, vous êtes
dans le bocal.
De...
Allez-y, parlez entre vous.
Donc, on va boire un café pendant ce temps-là.
Mais si, mais non, Patrick, je suis sûr que vous le connaissez. Vous connaissez pour Le Château Ambulant, Le
je
Voyage de
Chihiro. Je n'ai vu aucun
Chihiro.
Film de...
Aucun.
Mais... Non, aucun.
Même pas Princesse Mononoke ?
Même pas.
Pognon sur la falaise ?
Non.
Le Garçon et le Héron ?
Non.
Ah, vous en citez beaucoup, là.
Ouais, ça fait beaucoup.
Oui.
Mais je pourrais vous en parler des heures en plus, parce que c'est un réalisateur et dessinateur que j'admire énormément, mais je vais synthétiser.
Allez-y.
Ce qui est admirable, du coup, chez le créateur du studio Ghibli, donc tout le monde dit Ghibli, mais c'est vrai que c'est plus Ghibli, c'est sa constance dans l'émotion et l'intelligence des thèmes traités. On retrouve souvent le thème de la guerre, dû à son histoire personnelle intimement liée à l'histoire avec un grand H, et elle est souvent amenée comme un élément de fond par rapport à l'histoire principale des protagonistes, qui finit par prendre le pas d'une manière ou d'une autre sur leur vie. Une restitution fidèle de la réalité qui finit cependant généralement bien et de manière poétique. On découvre sur chaque film des machines volantes incroyables, signe de la passion d'Hayao Miyazaki pour l'aviation, domaine auquel il rend hommage par ailleurs dans Le vent se lève. On a aussi une vision des femmes qui est sublime. Miyazaki ayant lui-même dit « Beaucoup de mes films comportent des personnages féminins forts, des filles courageuses et indépendantes. Elles auront peut-être besoin d'un ami ou d'un soutien, mais en aucun cas d'un sauveur. » Ce qui change radicalement d'autres grandes franchises comme Disney.
Oui.
Et à 84 ans, c'est un porteur de messages forts qui a aussi fait parler de lui récemment au sujet de l'intelligence artificielle, qui propose des dessins de qui veut à la manière d'Hayao Miyazaki. Mmh. Celui-ci, en 2016, décrivait déjà l'IA comme une insulte à la vie même, et il a bien raison. Bref, je peux que vous conseiller tous les classiques de ce grand homme, musicalement accompagné des compositions fantasmagoriques de Joe Hisaishi, en vous souhaitant un bon visionnage tout en douceur et en poésie.
Ah bah merci beaucoup. Bah
merci, merci Mélodie.
Il n'y a
pas une exposition sur Miyazaki qui se passe en ce moment quelque part dans Paris. Me semble, j'ai entendu parler de ça il n'y a pas très très longtemps.
Oui, c'est vrai. Bah, y a même un store qui a ouvert aux Galeries Lafayette de Paris où tout le dernier étage
lui est consacré.
Ouais, complètement. D'accord. Avec des produits dérivés. Et sinon, c'est vrai qu'il y a pas mal de films aussi qui sont passés au cinéma là récemment, vu que l'an dernier c'était les 20 ans du Château Ambulant, je crois, et cette année c'est les 30 ans, il me semble, de Princesse Mononoké.
Je crois qu'il ressort au cinéma régulièrement, en plus des Miyazaki.
Ouais, bah là je crois que c'est Princesse Mononoké qui vont sortir en 4K restauré. Ouais.
C'est génial,
ça va être chouette.
Bon, merci beaucoup.
Mélodie. Bah, non, vous n'allez pas partir de suite, Mélodie. Bah, restez un peu parce que je vous propose de participer à un petit quiz.
Oui, c'est qui ça ? Ça, c'est quoi ça ?
Eh bien, vous allez nous le dire. Alors, je vous ai préparé un petit quiz, une douzaine de questions. Sur les extraterrestres au cinéma.
Ah !
Alors, donc il y a des questions faciles avec des réponses qui sont faciles. Et d'autres qui sont moins
faciles.
Voilà. Alors, première question, elle est très facile. À quel réalisateur doit-on le film de 82, E.T. l'extraterrestre ?
Spielberg !
Oui, c'est ça.
Tout à fait.
Bravo, enfin bravo.
Enfin, facile.
Bah, j'ai buzzé, hein ?
Oui.
Deuxième question. On va voir si vous allez aussi vite. Quel est le nom complet du film Alien sorti en 79 ?
Huitième passager.
Exactement, bravo Annelise.
J'allais le dire.
Parce que le vaisseau, évidemment, comporte 7 passagers l'Alien, c'est le 8e.
Et c'est très très bien.
Surprise.
C'est un super film.
Allez, on complique un peu les choses.
Oui, allons-y.
Dans Men in Black, par quelle lettre est désigné le personnage interprété par Will Smith ?
K.
Non.
J.
Mettez-vous d'accord entre vous.
K.
Il reste encore des lettres.
Oui, mais dans l'alphabet, il y en a pas mal.
Ouais, je crois que c'est K, ouais.
C'est K.
Voilà. C'est et ça. Donc la réponse, c'est agent J, évidemment.
Ah, bah, bien sûr.
K, c'est
Ah oui, K, c'est l'autre.
C'est Tommy Lee Jones.
Tommy Lee Jones.
Exactement, voilà. Ça se complique. Ça va se compliquer un peu plus avec la quatrième question. Okay, à quelle espèce extraterrestre de type gastéropode le personnage de Jabba des films Star Wars appartient-il ? Jabba appartient à une espèce extraterrestre.
Une limace.
Non.
Bon, j'aurais dit ça, mais
visiblement, vous en savez. Mélodie, vous savez où ?
Ah, je sais pas du tout.
Bon,
un escargot.
C'est les huttes. Les huttes.
Les huttes.
Voilà.
Bah, les huttes, c'est pas un endroit pour s'abriter ?
C'est pas une tribu indienne ?
Mais écoutez, revisez un peu votre bibliothèque personnelle cinématographique avant de dire des bêtises.
Très bien.
Dans Mars Attacks, quel est le point faible des extraterrestres ?
La musique.
Il y a une façon de s'en débarrasser.
Eh ben, faut leur passer la musique.
Oui, mais quelle musique ?
Oh, punaise, comment elle s'appelle ? Chant, c'est une musique américaine.
Non, pas du
cow-boy.
Tout, c'est beaucoup plus marrant que ça.
Ah non, c'est yiddish ou un truc comme
pas
ça,
du
non ?
Pas du tout, non plus.
Je sais que c'est de la musique, mais je ne l'ai pas.
Ah, vous n'êtes pas loin, c'est de la musique, effectivement.
C'est de la musique, mais
non,
c'est quoi ?
C'est pas de la musique, c'est du chant.
Oui, mais c'est un chant...
C'est le chant grégorien.
Pas du tout.
C'est un chant yiddish,
je vous donne la... Pardon ?
J'ai un chant tyrolien, mais ça aurait été marrant. C'est ça. C'est vrai ?
C'est le yodel, qui est un chant tyrolien.
Ah, c'est ça.
Et ces extraterrestres ont la particularité qu'ils ont la tête qui explose lorsqu'ils écoutent du yodel.
J'adore ce film.
Voilà. Autre question ?
Autre question.
Allez-y.
Quel pouvoir possède la créature extraterrestre Predator dans le film du même nom de 87 ?
Il mange tout le monde.
Eh ben, il peut. Quel pouvoir extraterrestre ?
Oui.
Bah, il est invisible. Il devient...
Et voilà, exactement. Bravo, Annelise. Il peut devenir invisible.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est un film qui a... Bon, bref, on en parlera un autre
jour. Ouais, voilà, on parlera un autre jour. Une autre question, alors plus facile pour Patrick, c'est
Oui, s'il vous plaît, oui.
Comment est surnommé l'extraterrestre interprété par Jacques Villeray dans La Soupe aux Choux? Non, ça c'est pas
denrée.
Un nom. La denrée, bravo Mélodie.
Oh bravo.
Bravo, bravo.
Je n'ai jamais vu La Soupe aux Choux.
Moi non plus.
Elle est géniale.
Autre question, de quelle planète vient Spock, le personnage des séries TV et films Star Trek?
De l'Enterprise.
Non, du quelle planète?
Ouais. De Galactica.
Donc, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas l'inventer.
Non.
Non. Vulcain.
Ah oui, oh, exact. Ouais.
Ah voilà.
Ah bah oui, comme Giscard.
Attention, une question pour Patrick maintenant.
Ah.
Quel est le... Mais vraiment pour vous.
Ah merci Jean-Jacques.
Parce que vous en avez parlé il n'y a pas longtemps de ce film. Merci. Quel est le nom du phénomène qui dessine des formes géométriques dans les champs et le point de départ du film Science The Night Shyamalan. Je vais y arriver, Shyamalan.
Oui, je le sais. Je
Alors je vous propose deux.
Oui, allez, dites-moi.
Crop Duo. Circle ou Child's Field?
Le premier.
Crop Circle?
Oui.
Exact. Voilà, c'est des phénomènes qui sont apparus dans les années 60 aux États-Unis. Et alors certains disent que c'est les agriculteurs,
oui,
d'autres que c'est
le
les petits plaisantins.
Ça traite de cela.
Voilà.
Oui.
Et certains disent que c'est des signes de vie extraterrestre.
Avec Joachim Phoenix aussi, qui est génial.
Bon. Dans quel film Emily Blunt et Tom Cruise doivent-ils faire face à une horde d'extraterrestres après qu'une météorite se soit écrasée sur Terre?
Pas le monde d'après.
Non, le monde...
Je vous donne le nom anglais, s'il vous plaît.
Oui, bah c'est la guerre des mondes.
La guerre des mondes.
Pas du tout. Oh. Age of Tomorrow.
Ah oui, c'est ça.
Ouais, voilà.
Bon, à quels animaux ressemblent les extraterrestres dans Starship Troopers?
Ah, des araignées.
Enfin... Oui, ça c'est un de vos films préférés.
Oui,
oui, vous donnez
Starship
la bonne réponse.
Des espèces de gros araignées.
Vous aimez bien les araignées.
Et vous savez que ce film est dans le top 12 des films où il y a le plus de morts.
Oui. 235
morts. Mais le gagnant, c'est Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, où il y a 836 morts.
C'est vrai?
Oui, il y a quelqu'un qui s'est amusé à compter les morts.
Ah d'accord. Oui, ça doit être quand tous les orques se font inonder, là,
chez Saruman.
Ouais.
Bon, allez, dernière question. C'est pas brillant, à part Mélodie qui a bien répondu.
Bah, merci.
Mais Mélodie est brillante.
Quel jeune acteur a fait ses débuts dans Le Gendarme et les Extraterrestres en 79, dans le rôle d'un extraterrestre? Il avait 21 ans à l'époque. Et je vous donne quatre propositions.
Oui.
Alain Chabat, Lambert Wilson, François Cluzet, Fabrice Luchini.
Fabrice Luchini.
Lambert Wilson.
Ah, j'aurais dit Fabrice Luchini aussi. J'ai envie de croire que c'est...
Vous auriez dit ça?
Ouais, moi aussi.
Et bien, c'est faux. Et c'est notre ami Patrick qui conclut le quiz avec brio, puisque c'est bien Lambert Wilson à 21 ans qui joue un extraterrestre.
Eh ben, comme quoi.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Ben, c'est déjà pas mal.
Et oui, et vous, Annelise, qu'est-ce que vous voulez nous dire?
Bon, rien d'autre. Hein.
Ah bon, je crois aussi. Enfin, okay. Vous voulez que je vous le dise à votre place, alors?
De quoi?
Bien que maintenant, on va attaquer la dernière séquence.
Alors, place à la dernière séquence.
Attendez, parce qu'il faut que je retrouve mon jingle, je l'ai perdu.
Ah bon?
Ah bah l'autre chose.
Jingle,
ça
jingle.
Ça y est, regardez, écoutez.
Oui,
écoutez.
Ah oui,
c'est bon. Voilà. Alors, t'étais aux premières loges? C'est génial ce genre de spectacle, hein?
Ça c'est vrai, ça.
Ça c'est vrai, tout à fait, oui.
Alors, nous avons parlé tout à l'heure des films que l'on pouvait voir confortablement installés dans notre canapé. Et maintenant, nous allons aller au cinéma avec les sorties de demain.
Ah ben, on va attendre demain, alors.
Hein? Les sorties de demain.
Oui.
Pourquoi j'ai mis cette date-là, moi? Moi, j'en ai un.
Moi aussi.
Tant mieux.
Et vous, Annelise?
Je suis content.
Moi aussi, j'en ai qu'un. Allons-y.
Je n'ai pas de film.
C'est vrai?
Non,
pourquoi?
Parce que je me suis trompé de semaine. J'ai le film de la semaine prochaine, si vous voulez.
On est en 2025, vous savez ça. Hein.
Mais j'ai pris le film du mercredi 16, donc...
Bon, très bien.
Donc, mais j'ai de l'avance, donc...
Oui. Bon, alors, Jean-Jacques?
Moi, j'en ai un.
Moi aussi, j'en ai un.
Qui s'intitule « Voyage avec mon père » de Julia Von Heinz, avec Lena Dunham et Stephen Fry. C'est l'histoire d'une journaliste new-yorkaise qui propose à son père, qui est un rescapé des camps, de faire un retour, un voyage en arrière en Pologne. Histoire pour elle de comprendre l'histoire de sa famille, mais évidemment le père lui n'a aucune envie de déterrer le passé. Voilà, film instructif sans doute. Il y a une note de la réalisatrice qui dit que c'est un drame qui conserve sa légèreté malgré le sérieux de son propos. Voilà, à voir.
Très bien.
Voyage avec mon père.
Et moi, ça s'appelle Le village aux portes du paradis. C'est un film qui parle de comment il s'appelle, Ma Margade, qui est Ma Margade, qui est célibataire et qui vit avec son fils dans le désert somalien. Il vit de petits boulots pour essayer d'offrir un meilleur avenir à son fils. Et il voit débarquer un jour sa sœur, qui est fraîchement divorcé, et tous les deux, bah, ils vont entre guerre civile et crise économique essayer de se battre pour continuer à vivre ensemble à travers cette Somalie qui est un peu ravagée par les guerres, et ça a l'air d'être un très 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 joli film. Voilà.
Très bien.
Ça s'appelle « Village aux portes du paradis ».
D'accord. Et ça, ça sort demain, n'est-ce
pas ? Et ça sort demain dans les salles, tout bon, à fait.
Parfait. Eh bien, Patrick, qu'est-ce que vous voulez nous dire ?
Eh bien, moi, je vais vous dire la chose suivante. Eh bien, que...
Vous n'avez rien à nous dire.
Vous n'avez rien à rajouter.
Le spécial,
je voulais vérifier si vous suiviez l'émission. Visiblement, vous ne la suivez pas.
Je suis l'émission.
Bon, alors, Admise.
Eh bien, voilà, ça devait arriver.
Oui.
Si naissant.
Oui.
C'est fini. Eh
ben, tant mieux, parce que ça tombe bien.
La porte de notre salle virtuelle va se refermer pour mieux se rouvrir dès mardi prochain.
Oui, et comme Patrick ne le dit pas, ce sera sur O2 Radio 91.3, bien entendu.
Ah, j'allais le dire,
tout
vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Hein.
Et se rouvrir en grand, puisque nous accueillerons pour l'occasion un invité qui partagera avec nous ses préférences cinématographiques.
Ah, super.
Absolument.
Allez,
sur
ceci
O2 Radio à 91.3.
Oui, vous pouvez redormir maintenant, c'est bon, Patrick.
On va y arriver. Ceci dit, vous pouvez toujours vous rendre sur le podcast d'O2 Radio pour écouter cet épisode ainsi que tous ceux de cette saison et même ceux des saisons précédentes saisons à venir. Comme d'habitude, nous allons nous quitter en musique.
C'est retour vers le futur.
Avec la chanson perle du jour. Et c'est vous, Jean-Jacques, qui allez nous le dire.
Eh bien, écoutez, en parlant de personnalité, il y a une chanteuse qui, en 1972, va dynamiter la chanson québécoise. En effet, Diane Dufresne sort son premier album qui va la consacrer aussitôt comme une chanteuse rock incontournable. Tirée de l'album, voici la chanson phare « Tiens-toi ben, j'arrive ». Accrochez-vous un peu.
Allez, à mardi prochain et en attendant...
Bon vent à tous. Take a bite.